Je sais pas chez vous, mais chez nous, pour dire ce qu'on veut à Noël, on s'envoie des vidéos. Par exemple, mon fils m'a envoyé une vidéo avec des chiots. Ma fille, un concert de sa chanteuse préférée. Mais pour ça, il en faut des gigas. Surtout si je veux envoyer un documentaire sur les Bahamas à mon mari.
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez de 50 gigas d'internet mobile pour seulement 10 euros par mois pendant un an pour les clients box, puis 25 euros par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition, valable jusqu'au 8 janvier 2018 pour toute nouvelle souscription à forfait Power 50 gigas. Prix multipack sans mobile avec engagement 12 mois.
Bonsoir, alors que l'année va bientôt se terminer, c'est pas ici qu'on va vous faire la liste de ce qui fait un Noël réussi en matière de cadeaux, de repas. Ouais, pourtant quand même, alors que des centaines de millions de terriens vont fêter Noël et qu'on va trouver toutes sortes de présents sous le sapin, est-ce qu'on n'assiste pas à un changement d'époque? Oui, quand par exemple on voit l'émergence des assistants personnels, des robots domestiques. Quand on sait que le marché des montres, des bracelets, des objets connectés pourrait doubler l'an prochain, et quand on voit aussi que la voiture connectée pourrait s'envoler, alors est-ce qu'un jour, le smartphone pourrait être disparaître? Est-ce qu'en 2018, il pourrait être détrôné? Qui va détrôner le smartphone d'ailleurs? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, l'occasion aussi de s'intéresser donc dans l'une des dernières émissions de l'année 2017 à tous les nouveaux usages, ce nouveau paysage pour la tech, le numérique, dont on vous parle abondamment sur BFM Business. On va faire un point sur toutes ces infos qui déferlent donc autour du numérique, justement. Et sa parole est rare, c'est une véritable star mondiale qui est avec nous ce soir. Il vient de Palo Alto, c'est Jean-Louis Gasset, si, faites pas le modeste, un cadre dirigeant d'Apple de 80 à 90, on était vraiment au début. Il a mis sur pied la filiale française d'Apple dans les années 80 et aujourd'hui, donc il vit donc en Californie, à San Francisco, associé du fonds Allegis Capital. Avec nous, bien entendu, aussi d'autres spécialistes du secteur, Jérôme Valu, associé du cabinet ICP Consulting, qui nous dit en permanence, patron, n'ayez pas peur de la transformation digitale. Elle aussi, conseille aussi un certain nombre d'entreprises. C'est Perle Bagot, directrice associée du think tank Hub Institute. Elle est à 2 semaines de son départ pour le CES de Las Vegas. Et bien sûr, Frédéric Simotel, éditorialiste high-tech à BFM Business. Oui, je le disais, Jean-Louis Gasset, c'est bientôt Noël, dans 3 jours, les cadeaux. Est-ce qu'on peut dire qu'on est rentré dans l'ère de l'après-smartphone, quand on voit notamment la montée des assistants personnels et de toutes sortes d'autres objets, voilà.
Alors, ce qu'on voit, c'est un élargissement du marché de l'ordinateur personnel. L'ordinateur personnel se décline, le PC classique, la tablette, le téléphone intelligent, et puis maintenant les montres qui sont probablement une des vagues qui arrive. Et là-dessus, par-dessus ça, vous pouvez mettre des assistants intelligents sur des objets comme ce que fait Amazon avec Alexa, qui est un très, très bon produit, très intéressant. Mais les assistants personnels et les smartphones ou ses voisins ne luttent pas les uns contre les autres, mais se
complètent.
Voilà.
Ouais, c'est ça. Donc il n'y en a pas un qui va cannibaliser l'autre. Il y aura toujours des smartphones. Et d'ailleurs, quand on voit dans le monde cette année, on en a vendu 1,5 milliard, presque 2% de plus par rapport à 2016. Et selon les prévisions du cabinet d'essai, on continuerait d'en vendre 3% de plus chaque année, donc d'ici 2021. Perle Bagot, la fin ou pas du smartphone, ou en tout cas de nouveaux usages?
Exactement, je pense que non, effectivement, ce n'est pas la fin du smartphone parce qu'on le voit évoluer, notamment lié à la technologie, le dernier iPhone qui est sorti avec le Face ID, avec des services aussi qui sont associés. Mais pour venir sur les objets connectés, qui pourraient être la continuité, en tout cas, du smartphone, ce qui va être important, c'est l'intelligence qu'il va y avoir dans ces objets connectés. Et la capacité de ces objets à échanger entre eux, à se connecter entre eux, et du coup, à apporter un vrai service supplémentaire. Il y a 2 ans, on parlait du CES, on a vu une multiplication d'objets connectés, donc d'un point de vue quantitatif. Aujourd'hui, la question, c'est comment ces objets connectés échangent entre eux et apportent un vrai service aux consommateurs. Et c'est là qu'on va voir ce qui va prendre ou pas.
Ouais, c'est ça, justement, la nouveauté. Maintenant, l'interaction entre tous ces objets, la notion de service. Et tout à l'heure, Jean-Luc Gasset, on parlera évidemment de la notion de contenu, bien sûr, fondamental. Ouais.
Hein. Il faudra parler aussi de la notion de sécurité.
Ah, bah,
est-ce que vous voulez que je vous fasse peur ?
Allez-y, oui. Est-ce qu'on est prêt vraiment ?
Ouais. Alors, aujourd'hui, avec deux ingénieurs, vous pouvez faire un microprocesseur, que les outils logiciels et puis ce qu'on appelle les fondeurs, ceux qui réalisent le dessin du microprocesseur que vous avez conçu. L'architecture ARM est partout, dans les objets connectés, que ce soit Android, Apple, Huawei, Xiaomi, tout le monde utilise des processeurs ARM.
C'est un processeur ARM, c'est l'un des
fabricants de processeurs qu'on retrouve dans tous les équipements
connectés. Voilà, très bien, voilà, continuez.
Donc vous pouvez faire votre processeur, vous pouvez prendre une licence de l'architecture et réaliser votre propre microprocesseur et le vendre dans une caméra installée dans la maison, dans un haut-parleur comme Alexa. Qu'est-ce qui empêche le concepteur de cacher dans la logique de ce microprocesseur des fonctions qui vont permettre de vous espionner, de pirater vos données, de prendre comme ça c'est fait le contrôle de 10 000 caméras connectées, intelligentes, mais tellement intelligentes qu'elles vont attaquer des serveurs et causer l'effondrement d'une partie du net.
Donc vous voulez dire que là on n'est pas prêt justement en matière de sécurité informatique, il y a des failles énormes, c'est ce que vous dites?
Oui, il y a des failles énormes et très 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 difficiles à détecter, parce que vous pouvez en quelque sorte mettre une taupe dans votre microprocesseur, vendre 4 millions de produits connectés, tout va bien, ça marche, les gens sont contents, et puis un jour
ça se réveille.
On va mettre en danger le réseau électrique d'un pays, par exemple.
Alors, juste, j'ouvre une parenthèse. Lorsqu'on voit, par exemple, c'était l'une des grandes annonces de la semaine, on en a parlé ici, bien sûr, Thales Gemalto qui se marie pour faire un géant mondial de la sécurité informatique. C'est une bonne nouvelle, justement.
C'est une bonne nouvelle.
Oui, racontez-nous. Francisco, en quoi, comment vous avez réagi lorsque vous avez vu que Thales et Gemalto se mariaient?
C'est qu'ils prennent la sécurité au sérieux. Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce, était un bon copain. Il est décédé il y a quelques années. Sa veuve m'a envoyé un livre que j'avais préfacé. Et Roland avait mis des commentaires là-dedans. Donc j'ai suivi ça. C'est un gros sujet. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment protéger de grandes installations, une banque, un site de crypto-monnaie, Bitcoin et ses frères et sœurs. Et c'est assez, je veux pas être apocalyptique, mais il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux. On a quand même vu comment les élections américaines ont été polluées, disons, par des pirates informatiques.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Ne me dites pas rien, non.
Alors je vais pas vous dire prier parce que mais il faut être très attentif et en particulier avoir affaire à des fournisseurs à qui on va apprendre à faire confiance.
Ou pas. Jérôme Valu, vous qui dites en permanence aux chefs d'entreprise qui hésitent à se lancer dans la transformation digitale, n'ayez pas peur. Mais s'ils écoutent Jean-Louis Gasset, là, c'est fini votre boulot. Hein.
Je pense qu'il y a un vrai sujet qui est aujourd'hui, on dit quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Effectivement, pour le moment, on est juste des utilisateurs. C'est-à-dire que l'esprit critique que l'on doit avoir sur le sujet vient avec la culture que l'on a du sujet. Aujourd'hui, il y a un défaut de culture sur ce sujet, à la fois dans les gouvernances, mais en particulier chez nos enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on devrait enseigner, c'est l'esprit critique, cette capacité à douter de ce que l'on regarde et avoir un point de vue qui fait qu'on n'est absolument pas sûr de ce que l'on voit.
Jean-Louis Gasset, et juste après Frédéric Simotel, sur ce point, justement.
Absolument, j'ai passé une partie de la jeunesse de mes enfants à leur dire, quand vous voyez quelque chose dans les médias, demandez-vous qui, pourquoi, à qui ça profite, d'où ça vient, les aventures qu'on a connues avec les camarades de Facebook montrent qu'il faut faire ce que vous dites, mais il faut le faire notre président depuis les États-Unis, je trouve vraiment très bien.
Pardonne-moi. Vous parlez du président français, hein.
Oui. D'accord. Oui. Alors, quand il dit l'école primaire est la mère des batailles et que son ministre décline la mère des batailles en disant il y a quatre choses à faire, lire, écrire, compter, respecter l'autre, ça c'est avoir une éducation de base qui permet d'avoir l'esprit critique dont vous parlez si justement.
Donc un bon point à Emmanuel Macron. Mounir Majoubi aussi, ça fait du bien.
Oui, absolument, absolument. Je trouve que la France est plus moderne que les États-Unis dans ce domaine.
Ouais. Ah bon, carrément.
Mais bien sûr. La communauté européenne. Alors bon, il y a les Anglais. Bon, les Anglais, ils sont pas comme les autres, on le sait bien. Mais il y a la communauté européenne qui dit il faut protéger les données privées. La France participe et va même un peu plus avant que l'ensemble de la communauté européenne dans ce domaine. Pratiquant de l'informatique, je suis pour l'informatique, mais je suis pour l'informatique qui est à mon service et qui me protège au lieu de me menacer.
Allez, alors, Frédéric Simotel, Jérôme Valu, je ne sais pas, tout le monde prend la parole.
Oui, pour revenir sur la sécurité, c'est vrai que pendant trop longtemps, on a laissé ça dans un domaine, c'était les experts. Les experts parlaient entre eux, et même quand ils parlaient dans les entreprises, ils parlaient entre eux, et on était sur des technologies, du logiciel, du hardware, on était vraiment sur la techno. Et là, on comprend aujourd'hui avec l'Internet des objets. Alors, le smartphone a été le premier partie de l'iceberg qui s'est dévoilé au grand public, et puis ça y est, maintenant on est tous on va avoir notre voiture, on a comme vous disiez, tous les objets connectés, et là aujourd'hui on a un gros effort à faire et nous en termes d'utilisateurs, de se dire tiens, qu'est-ce que deviennent mes données, je dois faire attention à tout ça, tiens, je vais chercher mes mots de passe, enfin faut une vraie stratégie, enfin une vraie politique, une vraie culture autour de ça, mais aussi du côté des fournisseurs, c'est-à-dire de plus dévoiler comme on va le voir au CES, plein de produits ou même lorsqu'on les teste au CES, ils sont avec le mot de passe où il y a juste un mot de passe. Enfin, il y a tout ça aussi à revoir. Alors c'est sûr que la sécurité amène parfois une contrainte parce que on veut un peu plus de contrôle, mais il faut justement travailler à ce que cette sécurité soit de plus en plus souple, soit de plus en plus agile. Et là, c'est vrai qu'on commence à voir arriver des concepts d'intelligence artificielle qui vont aider parce que je me présente devant mon ordinateur, parce que j'ai mon téléphone, on sait que c'est moi, parce qu'on sait que c'est ma voiture qui vient de se garer au parking, parce qu'on sait que c'est moi qui ai badgé à l'entrée de l'immeuble, on se dit, il y a de grandes chances que ce soit moi qui arrive devant mon ordinateur, donc du coup, j'ai pas de mot de passe à retaper, c'est tout ce genre de choses sur lesquelles il faut travailler.
Jérôme Valu.
Effectivement, la sécurité, ça commence, c'est un sujet informatique, mais c'est aussi un sujet personnel. C'est-à-dire que la prise de conscience des publics qu'il y a une problématique de sécurité, elle vient aussi de la, on sait qu'aujourd'hui, les défauts informatiques, les défauts de sécurité viennent essentiellement de défauts humain. C'est-à-dire les gens qui laissent leur ordinateur ouvert à un moment où ils ne devraient pas, etc. Donc, tout ça est un sujet de prise de conscience. Et c'est très intéressant parce que c'est ce qui est en train de se passer. À la fois de prise de conscience, on commence à entendre parler d'éthique. On commence. Et c'est sans doute pas les États-Unis et sans doute pas l'Asie qui va s'emparer de ces sujets, c'est sans doute l'Europe. Et c'est à l'Europe qui peut-être, juste parce qu'elle n'a pas tous ses outils et ses GAFA ou BATX, qui doit s'emparer du sujet qui est le sujet de la place de l'humain face à ces sujets.
L'Europe doit prendre sa part dans le combat justement pour davantage l'éthique. De votre temps, Jean-Louis Gasset, pas question de vous vieillir ou quoi que ce soit, mais je rappelais que vous étiez le dirigeant d'Apple au début des années 80. Oui, bon, c'était il y a 35 ans, voilà, disons-le. Oui. Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait plus d'éthique à l'époque qu'aujourd'hui, où Google, Amazon et tous les autres collectent des datas, les utilisent, ils sont partout, Enfin, clairement, votre regard.
Mon regard, c'est que comme l'Europe n'a pas Amazon, Google, ces grandes entreprises, l'Europe est moins susceptible de ce que les Américains appellent la capture du régulateur, regulatory capture. C'est-à-dire que, on le sait aux États-Unis, les lois sont écrites par des lobbyistes et votées par les parlementaires qui ont levé de l'argent pour se faire réélire. Voilà le système. Il y a moins de danger dans la structure économique de l'Europe puisque Amazon n'a pas, ou disons Google ou Apple n'a pas la possibilité de soudoyer, ou a moins de possibilités de soudoyer le régulateur et les parlementaires.
Ils tentent quand même,
absolument.
Je crois que l'immeuble est
très présent là-bas. Et en même temps, on voit quand même les États européens qui essaient de temps en temps de mettre un petit coup dans la forteresse Google, Amazon, Microsoft, etc. Mais le combat, par exemple, puisque ce combat quotidien dont on parle de faire payer les impôts à ces boîtes-là,
toujours bien difficile à mener quand même, Jean-Luc Gasset.
Oui, mais on peut le faire aussi pour Total et pour Renault. Ces sociétés-là ont des structures...
Et ils payent leurs impôts, ces boîtes, non ?
Non.
Non ?
Non, ils ont des structures à Jersey, ils ont ce qu'on appelle des BV, des abréviations d'un mot hollandais.
Bon, d'accord, oui, plein de lettres et Pierre J. Ouais.
Et donc, ils font de l'optimisation fiscale. Tout le monde le fait parce que dans toutes les entreprises, il y a des gens qui connaissent bien les textes.
Oui, Perle Bagot.
Oui, effectivement, c'est très intéressant de voir comment économiquement, aujourd'hui, l'économie, le levier un peu, c'est les acteurs de la tech. Comment est-ce qu'on va réguler économiquement, juridiquement, ouais. avec effectivement les données personnelles, l'accessibilité à ces données, la numérisation de ces données. Et on a vraiment des sujets qui sont emparés. Alors c'est vrai qu'on a un très bon président pour ça, qui est sensibilisé à tout ça, parce qu'il a été, typiquement, il a fait des déplacements au CES, il a fait des déplacements dans la Silicon Valley. Il parle avec des entrepreneurs, il comprend, il a à la fois aussi une vision financière hein, du marché. Donc je pense qu'il y a une page qui va être tournée et on va commencer à rentrer dans une régulation qui va être intéressante à la fois pour des grosses structures comme pour des petites aussi, parce qu'il faut faire attention à trop vouloir réguler, ne pas mettre des structures, des petites structures, des structures
françaises dans la difficulté. Bien entendu, ouais. Frédéric.
Oui, on a un président numérique, mais je dirais qu'on a un gros souci quand même en France notamment, c'est le financement. On parle juste d'intelligence. Pour élargir un peu le sujet sur l'intelligence artificielle, on entend vaguement qu'on va mettre 300 millions dans un fonds sur 10 milliards pour l'industrie. Mais non, les Chinois sont en train de parler en dizaines de milliards. SoftBank a levé 100 milliards aux États-Unis. Et là, on est vraiment en train de perdre. Et c'est ce qui est dit aujourd'hui à la commission Villani. Cédric Villani est sur une commission. Et il a reçu plusieurs patrons de centres de recherche. Et la première chose qu'ils lui ont dit, mais les cerveaux, on les a, vous inquiétez pas. Par contre, il faut de l'argent pour relancer tout ça.
Les GAFA, en 2016, GAFA et aussi BATX, ont investi entre 20 et 30 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle.
Donc les Américains et les Chinois.
Pas entre.
Bien sûr. Juste sur la régulation, Jean-Louis Gasset, toujours cette question qui revient régulièrement chez les régulateurs divers et variés. Est-ce qu'il faut démanteler Google ? Est-ce que c'est une question qui doit se poser ?
On a posé la question, c'est une vraie question, comme on dit en France. Ouais. On a posé la question pour Microsoft et ça s'est arrangé.
Oui,
exact. Ça s'est arrangé. Parce que toutes les entreprises finissent par succomber au cancer de la douce médiocrité.
C'est-à-dire
les habitudes. Par exemple, Microsoft a perdu le marché du smartphone. Ils étaient dans le smartphone avant tout le monde. Mais ils avaient l'habitude de se faire payer pour la licence de leur système logiciel, comme pour les PC de Windows. Android est arrivé en disant « Non, c'est gratuit ». Et Microsoft n'a pas pu réagir en disant « Bonne idée, c'est gratuit ». Parce que de toute façon, ça va nous faire vendre des applications Windows pour lesquelles les gens payent. Et donc, Microsoft s'est fait déculoter le business model, si vous me permettez, par habitude. Les habitudes, vous savez, la culture, c'est un système de permission, c'est-à-dire des habitudes du cœur et de l'esprit. Et les habitudes de Microsoft l'ont trahi. Donc, toutes ces grandes entreprises...
Un jour, sont amenées à...
À dépérir. Par habitude.
Vous la comprenez, la stratégie de Google, vous savez jusqu'où ils veulent aller, c'est quoi leur but ultime à Google ou pas, Jean-Louis Gasset?
Alors, c'est difficile parce que pour des raisons familiales, je n'écris jamais dans ma Monday Note, je n'écris jamais ou pratiquement jamais sur Google parce que je ne veux pas qu'on dise que j'ai des informations intérieures. Mais
parce que vous avez de la famille qui travaille. D'accord. Okay, ouais. Bon, très bien. Okay.
Ouais. Donc, et donc, mais je pense que Google aujourd'hui c'est très désordonné. Ouais. Il y a un business model et demi, c'est-à-dire AdWords, enfin la publicité et YouTube. Ouais. Quand même, qui va bien, mais ça n'est pas un relais pour la publicité.
Puis c'est un hydre à deux têtes. Il y a deux têtes à la tête de Facebook,
de Google. Google.
Alors que ce que disait Jean-Louis en aparté avant l'émission, c'est que chez Facebook, il n'y en a qu'une seule.
Oui.
Et que chez Amazon, il n'y en a qu'une seule.
Oui.
Et que finalement, c'est ces grands modèles-là qui sont pilotés avec une vision extrêmement claire. On sait qu'entre Calico, qui est quand même piloté par l'un, et Google X, qui est piloté par l'autre, Google a les jambes un peu écartées. Quoi.
Carl Bagot.
Et puis même d'un point de vue, je pense, de la culture interne dans l'entreprise, des valeurs qui sont comporter. Facebook, comme Amazon d'ailleurs, sont effectivement voilà très structurés. Il y a une espèce de, on sent une tension même assez forte quotidienne d'un point de vue du business qu'on sent beaucoup moins chez Google, qui, je pense effectivement par le business du search, s'est un peu engraissé facilement et a des acquis. Voilà, qui sont, pour l'instant, en tout cas, pas détrônés.
Frédéric Simotel.
Oui, d'ailleurs, ils ont eu besoin de se renommer. Hein. Ils sont renommés le groupe Alphabet, puis après créer des divisions pour essayer de dire, voilà, dans telle division, on va aller, on va avancer.
Et on n'est pas si...
Et on n'est pas omniprésent. Je ne pense pas soit à l'aube d'un démantèlement, mais c'est pour essayer de donner une vision plus claire aux gens qui les voyaient un peu partir dans tous les sens.
Qui échappe encore aux GAFA? Parce qu'on va reparler des BATX dans un sens, c'est-à-dire les équivalents chinois, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un jour sans qu'on se rende compte de cette puissance de ces nouveaux États, ces extraterritorialités. Hier, quand on parlait, par exemple, de la réforme fiscale de Trump, on expliquait qu'il ait donné la possibilité à de grandes entreprises de rapatrier, quelque part, leur trésor de guerre sur le territoire américain, moyennant une amnistie, moyennant une fiscalité beaucoup plus avantageuse. Bon, est-ce qu'ils vont le faire? C'est un peu à leur guise. Ils font un peu ce qu'ils veulent, quand même, non, Jean-Louis Gasset?
De mon point de vue, ils ont raison. Il y a la loi, ou bien ils violent la loi...
Ils sont poursuivis.
Ou bien ils respectent la loi. Le problème, c'est que le législateur est trop souvent corrompu par les entreprises. Alors, on n'a pas parlé du monde pharmaceutique, mais...
Pareil, oui, c'est pareil. C'est
encore pire.
C'est encore pire d'après vous.
C'est bien pire. Il y a des médicaments, j'en sais quelque chose, à 12 000 dollars par mois.
Jérôme Valu.
Oui, non, c'est sûr que sur ce sujet-là, la place des GAFA, elle est omniprésente et on est un peu inféodé. Je pense que tout ça va venir avec une augmentation de la culture des gens et on parlait de confiance tout à l'heure, sans doute de cette prise de conscience. On voit que les plateformes du type Uber, Airbnb sont un peu maltraitées en ce moment. Sans doute parce que leur approche sociale du sujet est quand même assez désastreuse, qu'ils ont un regard sur le monde qui est très libertarien et que la confiance, c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est ils sont des plateformes et tout le reste, c'est des commodités. Nous sommes tous les commodités de Google, d'Uber et de Airbnb. Donc, aussi bien les chauffeurs que les gens qui sont transportés. Donc, c'est cet aspect social du sujet qui est sans doute l'épine dans le pied ou le caillou dans la chaussure de ces plateformes. Et je pense qu'il y a un moment où nous, par notre culture, par notre compréhension du sujet, par l'idée que quand on donne une data, eh bien, on en attend un contre-don. Eh bien, cette idée-là, c'est une idée qui est en train d'émerger et de se construire. Ça va venir par la culture. Je crois que les citoyens vont comprendre ce qui est en train de se passer.
Ils vont se rebeller?
Non.
Ils vont moins acheter?
Mais en un clic, on abandonne Google. En un clic, on passe de Google à Quant.
Par exemple, pour Apple, par exemple, on apprend aujourd'hui, et Apple l'a reconnu, qu'ils avaient bridé, donc, les 5, les 6, justement. C'est une rupture de confiance, quand même, Jean-Louis Gasset.
On peut le voir comme ça, et de toute façon, je ne suis pas là pour dire à qui que ce soit, voilà comment vous devez réagir. Ce que je remarque, c'est que ça a été très maladroit, et ça a été fait dans l'intérêt des clients, c'est-à-dire que quand les batteries vieillissent, on va ralentir certaines parties du fonctionnement pour éviter que la batterie s'échauffe.
Oui, c'est ça.
Donc, ça a été mal communiqué, mais je vois pas ça comme un crime.
C'est ça. Alors, Frédéric, c'est la raison officielle, mais derrière, il n'y a pas une volonté de toujours acheter le 7, le 8, le 10 maintenant?
Après, c'est pas forcément, ça vient pas forcément d'eux non plus, c'est que ceux qui développent les applications...
Pardon, je vois peut-être le mal où il n'est pas.
Mais les applications deviennent toujours plus puissante, plus gourmande en mémoire, plus gourmande en traitement des données. Donc il faut forcément de toute façon monter parce que sinon on se retrouve soi-même ralenti. Après dire que ça vient juste d'Apple ou ça viendrait juste de l'autre côté de Google qui ferait, je pense que c'est un peu non. C'est l'industrie qui est toujours en train de courir. On l'a connu dans le monde du PC, on est toujours en train de courir.
Ça a évité de faire exploser des batteries comme chez un autre.
Oui, bien entendu, chez ça.
On disait toujours ça, mais le PC c'était ça. Il fallait. Ouais. On est toujours en train d'avancer parce qu'il y a toujours un logiciel qui va demander.
Jean-Louis Gasset, allez-y, Jean-Louis Gasset.
Quand vous voyez un téléphone qui reconnaît votre visage dans l'obscurité,
le 10,
ça
booste la batterie.
Ça, bon. Et bien surtout, ça incite les utilisateurs à trouver une meilleure sécurité de leurs données, un meilleur confort d'utilisation. On tire pas les ficelles du système.
Un iPhone 10 à 1200 euros, c'est justifié,
c'est un café par jour.
Oui, d'accord. Si
vous voulez. Je veux dire, le modèle de Samsung, le modèle du haut de gamme de Samsung coûte 50 euros de moins. Et Tim Cook l'a très bien dit. Vous allez à Palo Alto, en tout cas, c'est là qu'il habite. Vous allez à Il Fornaio ou chez Starbucks et le latte à 4 dollars. Bon, 4 dollars par jour, 300.
Ouais, c'est ça.
Oui. Bon.
Vous disiez tout à l'heure, il y a une vague à attendre justement en 2018 sur tout ce qui est montres connectées, bracelets connectés, vêtements connectés. Je crois que c'est l'Institut IDC qui disait le marché va doubler en 2018. Jean-Louis Gasset.
Comme disent les Japonais, very very difficult. mais sérieusement, les montres se développent très bien. Un jour, vous aurez un petit écouteur dans l'oreille qui vous dira votre température, votre pression artérielle, et peut-être dans quelques années votre taux de glucose. Aux États-Unis, le diabète 2, parce qu'ils sont polis, qu'on appelle nous le diabète gras, ce qui est quand même plus vrai, coûte 800 et quelques milliards de dollars. Mm-hmm. Et donc la santé c'est la prochaine vague, y compris des assistants d'ailleurs, par-dessus les différents matériels comme plateforme, va vous permettre de mieux gérer. Vous avez des battements de cœur irréguliers, on appelait ça de la fibrillation atriale, enfin je parle plus très bien les Français, messieurs.
ventriculaire.
Eh bien, si la montre ou l'oreillette ou un bracelet vous surveille, c'est un avantage de santé.
Bien sûr.
Mmh. Aux États-Unis, la dépense de santé par personne est la plus élevée du monde, avec un rendement pour les êtres humains. Moi, comme disait un de mes ingénieurs, c'est plus cher, mais c'est moins bien.
Carl Bagho, le Hub Institute.
Effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, encore une fois, les objets connectés vont se développer par le service qui vont être associés, qui vont proposer. Et la santé est un vrai sujet, un vrai secteur. Ça va vraiment être un accompagnement. C'est tech for good, tech for human. C'est comment est-ce que la technologie, comment ces objets connectés peuvent au quotidien me permettre de suivre ma santé, me faire de la recommandation, me dire de dormir différemment, de me coucher plus tôt, de manger, de faire plus de sport, à quel moment, comment, pourquoi. Et c'est en ces usages-là que les objets connectés vont se développer.
On va reparler des usages, on va reparler des contenus, évidemment, ce qui nous attend en 2018, la nécessité de se développer pour tous ces grands de la tech, hein, sur du contenu. On continue, on était avec Jean-Louis Gasset, fondateur d'Apple France, plus Jérôme Valu, plus Perl Bagho, plus Frédéric Simotel, les décodeurs de l'écho qui reviennent dans un instant sur BFM Business.
L'écho, c'est clair, sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, tour d'horizon, bien entendu, donc ce soir dans les décodeurs de l'écho, alors que l'année se termine, qu'une nouvelle année va démarrer sur les grands enjeux, justement, de la tech, du numérique, de ce qui vous attend, bien entendu. On en parle ce soir avec Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset qui vit à Palo Alto, hein, c'était l'un des fondateurs, des cadres, en tout cas dirigeants d'Apple dans les années 80. Il avait fondé Apple en France. Il est aujourd'hui associé à un fonds d'investissement à Legis Capital, donc présent donc en Californie. On est toujours avec Jérôme Valu, ICP Consulting, avec Perl Bagho, donc associé, directrice associée du Hub Institute, et puis Frédéric Simotel de BFM Business. Dans les enjeux, on va beaucoup en parler, bien sûr, peut-être probablement au CES de Las Vegas, la voiture autonome. Est-ce que tout est prêt, vraiment? On nous annonce 2020. Jean-Louis Gasset.
Non, on nous avait annoncé 2017, ouais. Et il reste plus grand-chose.
On en fait trop ou pas autour de la voiture autonome, ou faut se donner un peu plus le temps?
Je vais vous dire, la culture du tech est de projeter. Ouais. Et donc, c'est très bien de parler de l'avenir, et puis il faut être optimiste. Bon, tout ça, c'est très bien. Maintenant, je conduis régulièrement une Tesla, la Tesla de mon épouse, et je peux vous dire qu'on n'y est pas. Mmh. On en est même très loin. Il
Pourquoi
est très facile.
Qu'est-ce qui manque? On s'est emballé ou...
Par exemple, ouais. Un Carrefour à San Francisco de piétons. il y a 4 passages de piétons, il y a 4 flots de voitures, et ce qui se négocie, c'est le contact d'un être humain avec un autre être humain pour savoir si on va s'engager ou pas, ou si je vais laisser passer. Il y a des règles non écrites, et qui sont donc très difficiles à écrire pour un algorithme qui pilote ce genre de choses. On ne sait pas le faire, et on n'est pas prêt de savoir le faire. Il neige, on ne sait pas faire. Il y a une rue étroite dans laquelle il faudrait se laisser passer, mais malheureusement, il y a des voitures derrière. Les êtres humains se font signe à la main et on passe. Tout ça, c'est très difficile. Moi, je vois les voitures de Waymo, c'est-à-dire de Google, dans les rues de Palo Alto. C'est très bien. Je suis très content qu'on avance comme ça. Simplement, il faut pas confondre le discours et la réalité. Un discours optimiste qui se doit d'être optimiste, et puis la réalité où il faudrait quand même savoir que ça va pas être demain.
Frédéric Simotel.
Oui, on l'a vu ici même. Hein. Mathieu Sévin, journaliste qui suit notamment l'auto, a testé un concept Renault niveau 4.
Oui, il y a deux semaines, à peu près.
Autonome, mais il y a encore le volant et les pédales. Niveau 5, c'est, il n'y a plus de pédales, plus de volant, et c'est totalement, il est totalement autonome. Et les ingénieurs lui ont dit, on y sera, mais en 2023, 2024, quoi. Alors que la voiture, il l'a testée, il a roulé en conditions réelles, il a doublé, ils ont passé un péage, on voit toutes ces images, si vous avez causé en replay, c'est assez impressionnant, mais il parle de 2023, parce qu'il y a encore tout un, et pourtant la voiture, elle n'est pas bardée de câbles et tout ça, c'est vraiment une voiture qu'on pourrait presque conduire demain, mais voilà, il y a toute cette technologie des capteurs, des traitements, des données.
Perle Bagot et Jérôme Valu.
La question de la voiture autonome, elle s'inscrit aussi dans une ville intelligente. Mm-hmm. Et effectivement, je pense qu'elle ne pourra pas vraiment se développer pleinement tant qu'on n'aura pas aussi développé l'écosystème dans lequel elle s'inscrit. Donc dans une ville intelligente, dans des routes intelligentes.
Et là, peut-être qu'on en parle aussi beaucoup des smart cities, et puis finalement, ça ne vient peut-être pas aussi vite qu'on espérerait, ouais. Non.
Alors, effectivement, ce sont des investissements qui sont colossaux. D'ailleurs, on le voit, c'est le thème principal du CES cette année. Ils ont dédié un hall justement à la Smart City. Des Bouygues Construction, Eiffage, Vinci sont dans ces problématiques complètement. Comment rendre la ville intelligente, les bâtiments dans la construction même? Donc il y a encore du chemin, mais il y a quand même beaucoup d'innovations qui sont lancées, notamment aussi en Asie.
Jérôme Valu.
Enfin, 2023, c'est demain matin hein, quand même.
Oui,
c'est tout de suite, quoi. Ouais. Je veux dire.
Par rapport à ce dont on parle aujourd'hui, on a l'impression que c'est vraiment demain matin. Là, c'est
Je trouve que 2023, c'est demain matin.
À propos de la voiture, on a vu la semaine dernière cet accord entre Renault et le groupe de presse de Claude Perdriel, Challenge, notamment, donc pour mettre du contenu dans les voitures, de l'information. On voit les tractations entre la 21st Century Fox et Disney. On voit AT&T qui essaie de racheter Time Warner, les studios Warner, CNN, etc. Il y a cette nécessité, Jean-Louis Gasset, de trouver du contenu. On rentre cette fois dans la période de la maturité. Tout le monde se marie avec tout le monde, histoire de faire du contenu.
Oui,
c'est urgent, c'est obligatoire.
Non.
Non.
Non, de toute façon, ça se défera tout seul. On voit ce qu'on appelle les gens qui coupent le câble, ne veulent plus être des abonnés de Comcast, disons ici Numéricable, si je comprends bien, pour la télévision, et qui utilisent une connexion Internet pour avoir ce qu'ils veulent.
Mais ce qu'ils veulent, Amazon Vidéo, Netflix, par exemple.
Oui, ou Toto. Toto, il a une très bonne idée, et le bouche à oreille. Il faut quand même pas oublier que l'arme de marketing la plus puissante aujourd'hui, c'est le bouche à oreille. Le rôle de la publicité n'est que de donner sa légitimité et un écho au bouche à oreille. Donc moi, ces grands mariages, ça me désole, mais bon.
Mais par exemple, là, il y a un débat en cours sur l'audiovisuel public en France, là, qui va pas tarder à démarrer. Au-delà de ça, est-ce qu'on regardera encore des chaînes classiques à des heures précises? Est-ce qu'on ira encore au cinéma, d'après vous, Jean-Louis Gasset?
Alors, le cinéma, il y a un vécu du cinéma avec un écran énorme. Ouais, Et puis maintenant, les salles vous donnent des...
Oui, ouais, on peut réserver, il y a des grands consommer. Consommer. On peut y aller à deux.
Bon, c'est-à-dire, vous pouvez reproduire dans votre salon, une partie de votre salon, dans la salle de cinéma. Mais je pense que des choses comme Netflix, Amazon Prime et autres montrent bien où on va.
Oui, bien sûr. Les téléspectateurs délaissent la télévision par câble, satellite, pour ces contenus à la demande. Oui,
j'ai été au cinéma voir le dernier Star Wars dimanche dernier. Pub dans le cinéma pour le prochain film de Will Smith. sur Netflix seulement.
Ouais, bien sûr.
Et d'ailleurs, on le voit, hein, Apple a investi dans la production en propre de séries, de contenus, de films. Donc même pour les acteurs purement de la tech, c'est vraiment un enjeu de pouvoir créer ses propres contenus et de rivaliser avec des Amazon, de rivaliser avec d'autres acteurs qui sont déjà, parce que pour le coup, Apple était un petit peu en retard par rapport au streaming.
Amazon, Google, etc. On parlait de cette surpuissance, évidemment, de ces groupes américains. Est-ce qu'il va falloir surveiller en 2018, Jean-Louis Gasset, donc l'Asie qui se prépare peut-être, aller à prendre la suite. Xiaomi, le fabricant de smartphones chinois, qui devrait s'introduire en bourse en 2018. On nous dit que ça pourrait être la plus grosse IPO donc de tout le monde de la tech. On explique, certains esprits un petit peu fous parlent d'une valorisation de 100 milliards de dollars. Bon, c'est quoi la nouvelle donne des acteurs asiatiques?
La nouvelle donne des acteurs asiatiques, c'est le savoir. C'est-à-dire qu'il y a une culture en Chine où ils produisent 1 million de docteurs et sciences par an. Ils font de la microélectronique avancée chez Huawei et ils font du logiciel chez Huawei aussi, à Shenzhen. Et donc, je pense que Huawei est beaucoup plus intéressant que Xiaomi. Mais c'est ça qu'il faut craindre. Et dans la voiture, le plus gros fabricant de batteries est un Chinois. Et le deuxième fabricant de voitures électriques, derrière Carlos Ghosn, avec Nissan, avec la Leaf, c'est Bird, BYRD, qui fabrique beaucoup de voitures électriques. Donc, on parle de ce que Google fait avec Waymo et tout ça, c'est très intéressant, très bien. Et Google, Larry Page a dit niveau 5, pas niveau 4 en voiture autonome. Parce que quand vous avez encore un volant que la voiture, vous risquez de ne pas être attentif et le jour où on vous demandera votre attention, ça sera trop tard. Les Chinois vont directement dans ce domaine. Et je trouve que ce sont eux qu'il faut craindre.
Oui, BATX, GAFA qui va gagner, Frédéric Simotel, Pearl Bago.
Je pense que ce que dit Jean Gasset est important, c'est le savoir et puis c'est la rapidité. Et puis ils se posent pas de questions. Enfin, quand vous discutez avec des acteurs chinois, ils se posent pas de questions de la réglementation. Tout le contexte politique, social est différent, mais ils se posent beaucoup moins de questions. La reconnaissance faciale, allez, on y va. Reconnaissance faciale dans la plupart des entreprises. Le paiement sans contact. Alors nous, on est encore à dire, est-ce que c'est 20 ou 30 euros. Eux, ils s'embêtent plus. C'est dans la messagerie aujourd'hui. Il y a même des magasins qui n'acceptent plus de cash, qui n'acceptent plus la carte de crédit. Des restaurants qui vous acceptent seulement le paiement via WeChat. Et nous, on est encore en train de se dire, est-ce qu'il faut faire 20 ou 30 euros pour paiement sans contact? Enfin, il serait temps que nos dirigeants aillent faire un tour là-bas et se rendent compte que les milliards...
Il faut aller voir ce qui se passe en Chine, bien sûr. Il faut le dire à tout le monde.
Il serait temps d'avancer plus vite.
Pearl Bago.
Justement, WeChat dont vous parlez appartient à Tencent, donc un des BATX, 5e valorisation boursière au monde. Talonne de très près, donc Facebook, Apple, Amazon. Donc, c'est pas négligeable. Shenzhen, aujourd'hui, on y va régulièrement, nous, avec le Hub Institute. C'est extrêmement intéressant de voir la dynamique qu'il y a. C'est plus juste l'usine.
C'est la concurrente directe de la Silicon Valley, c'est ça?
Aujourd'hui, nous, on regarde Shenzhen peut-être plus qu'on regarde la Silicon Valley.
Ah, dingue, ouais. Juste des petites questions pour terminer, puisqu'on en profite, Jean-Luc Gasset, de vous avoir. Le débat sur la neutralité du net, la FCC qui met fin au principe de neutralité du net, est-ce que c'était selon vous un frein à l'investissement, à l'innovation, ou alors est-ce qu'il faut la laisser pour ne pas voir se créer un internet à deux vitesses? Qu'est-ce que vous dites, vous?
Non, c'est tragicomique, cette affaire. Il est clair que le net est devenu ce qu'il est grâce à la neutralité. Tout le monde pouvait, personne ne filtrait. Alors évidemment, Verizon et Comcast se sont fait pincer à l'occasion en freinant la diffusion de certains contenus, ce qui fait que la Commission fédérale des communications, la FCC, a durci sa position. Et puis maintenant, il faut savoir que la seule chose qui compte pour Trump, c'est de se venger d'Obama.
Et donc,
tout ce qu'Obama a fait, ils veulent le défaire.
Voilà,
mais la neutralité du net, ne plus faire le net neutre, c'est un crime. Et d'ailleurs, c'est pas fait.
Un crime, voilà.
Le réseau est un bien commun.
Bon, voilà. Vous êtes investisseur ou est-ce que vous allez investir en 2018?
Alors, dans la sécurité, dans les algorithmes d'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning, dans les drones,
oui.
Parce que les drones et le machine learning vont bien ensemble. Ça suffit.
C'est bien déjà.
Oui, justement. Le Bitcoin, cette folie autour des monnaies virtuelles, ça continue, ça se calme un jour. Vous en avez
Non,
fuyez à toute vitesse.
Moi, je suis ancien pauvre. Et donc, j'ai des réflexes d'ancien pauvre. Et donc, non.
La tech américaine, mauvaise année là qui se termine. Uber, Snap. Est-ce qu'on peut revivre un an 2000 de l'Internet? On voit des valorisations raisonnables en France, hein. Peut-être un peu moins aux États-Unis.
Oui, c'est vrai. Et de toute façon, c'est autocorrecteur. Oui. Et donc, la chute de 2000 n'a pas été aussi dure que la chute de 2007-2008, oui. Qui étaient les manifestations du crime des législateurs quant à les réglementations financières. Donc, le tech, ça a perdu, puis c'est reparti. Par contre, les crimes commis contre les domiciles des particuliers par la chute de financière de 2007-2008, les gens ne se sont pas encore complètement relevés.
10 ans après. Vous avez dit tout le bien que vous pensiez du président de la République française, Emmanuel Macron, qui veut faire de la France une start-up nation. La French Tech, qu'est-ce qu'elle pèse vraiment à vos yeux, Jean-Louis Gasset?
Alors, je lisais un de mes blogueurs favoris, qui est Benedict Evans, qui travaille dans une très belle firme de venture qui s'appelle Andreessen Horowitz, A16Z. Hein. Et donc Benedict Evans disait, maintenant quand je me promène dans San Francisco, j'entends plus de français que d'anglais. Il parlait d'anglais d'Angleterre.
Ah, oui.
Donc là il y a une très bonne circulation de savoir, de personnes. Les ingénieurs français sont très appréciés.
Et les trois boîtes à suivre en 2018, les boîtes françaises à suivre, à votre avis, en 2018, quelles sont-elles, là, comme ça, spontanément?
Je ne sais pas vous répondre.
Ah bon, d'accord. Mais vous en entendez parler quand même, monsieur.
Oui, mais j'entends plus comme à cause de mes intérêts pour les jeunes pousses. J'entends parler de. Je vois des jeunes pousses, mais je ne prédis que le passé. Hein. Donc, c'est plus facile, oui. Mais non, mais c'est difficile de vous dire.
Vous me dites un mot de Perle Bagot, puis on se dit au revoir.
Juste pour rebondir par rapport à la French Tech, en fait, ça aura permis de mutualiser l'effort et d'avoir une présence et une visibilité à l'international, ce qui nous manquait beaucoup. Et en fait, c'est là où on s'est un peu remis en question et on a fait quelque chose un peu contre nature. On est parti ensemble à l'international.
Chauffeur privé racheté par Daimler, c'est un bon coup, pas? Qui me dit un mot là-dessus? Non.
Oui. Il y a la souhaite sera tout à l'heure chez notre ami Sébastien Coen.
Oui, bien sûr.
Pour l'écouter,
ouais.
Mais
Jean-Louis Gasset, vous avez entendu parler de ça ou pas? Non.
Non.
Non, d'accord.
Non,
mais Jérôme Ballu, le mot de la fin.
Juste un petit mot. Ouais. Startup Nation, c'est vachement bien. Startup Nation, c'est vachement bien. Mais ETI Nation, c'est encore mieux.
C'est encore mieux.
C'est-à-dire qu'il faut transformer les entreprises françaises historiques avant de se poser la question des startups.
Défi ETI qui est fait. Des émissions lancées en 2017 sur BFM Business. Et qui devrait revenir normalement en 2018. Merci à tous. Jean-Louis Gasset, merci d'être venu
merci
ici.
À vous.
Donc
merci
Jean-Louis
à vous.
Gasset,
toujours un
donc,
plaisir d'être au pays natal.
Voilà, c'est bien. Fondateur d'Apple France, donc. Et puis aujourd'hui, eh bien, associé du fonds Allegis Capital, installé à San Francisco, qui était de passage ici à Paris, dans ce studio des décodeurs de l'écho. Très bonne fête à vous. Hein. Profitez évidemment de la France. Bonne fête à vous tous. Hein. Jérôme Valu, associé chez ICP Consulting, patron, n'ayez pas peur, voilà peut-être une idée de cadeau de Noël. Perle Bagot, donc à 2 semaines de son départ vers le CES de Las Vegas, hein, est associé du think tank Hub Institute. Merci Frédéric Simotel, éditorialiste high-tech à BFM Business. Très bonnes vacances à tous, les décodeurs de l'écho, toute la semaine prochaine avec les meilleurs moments, les meilleures émissions, celles que vous avez préférées. Et on se retrouve très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.